بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche le 9 du mois de l'Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 26 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire, dans laquelle nous lisons ensemble al-Risala de notre noble cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, ainsi que tous les savants de la Sunna, appelés Mahiya Salafiyya. Qu'est-ce que la Salafiyya? Et on s'est rendu au sixième point de cette risala, dans lequel Cheikh Hafidhahullah a cité 10 caractéristiques de cette méthodologie bénie, la méthodologie salafi, la voie des salafs. Donc il a cité 10 caractéristiques de ce manhaj. Le premier, c'est l'importance qu'ils accordent au tawhid. Le deuxième, c'est l'importance qu'ils accordent au suivi du prophète alayhi salatu wassalam dans tout ce qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ils font tout ce qu'ils font comme adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est tawhid, ils le font conformément aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième point, c'est leur attachement à la compréhension des pieux prédécesseurs. Leur attachement à la compréhension des pieux prédécesseurs de tous les textes. Et ça, c'est un point capital qui distingue les salafis des autres sectes. C'est la compréhension qu'ils ont des textes. Et cette compréhension, elle est prise des pieux prédécesseurs à leur tête, les compagnons, qu'Allah les agrée tous. Également, ils sont caractérisés par les mises en garde contre les innovateurs et les innovations. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser intimider pour ceux qui appellent les salafis les mises en gardistes. Ce qui compte, c'est que la mise en garde soit faite avec science et équité, c'est-à-dire on ne va pas attribuer à notre adversaire des choses qu'il n'a pas dit. On va lui attribuer uniquement les choses qu'il a dit ou qu'il a écrit et les positions qu'il a adoptées et montrer son égarement avec les preuves et les arguments. Du moment que la mise en garde est faite avec science, ça c'est le point apparent que les gens voient et qu'ils peuvent juger. Est-ce que cette mise en garde est juste ou pas? Par contre, ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans le cœur de celui qui fait la mise en garde. Mais ce qui lui est demandé pour qu'il soit récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire cette mise en garde sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala comme il fait toutes ses adorations et de vouloir préserver la religion et de vouloir défendre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est ça la bonne intention dans la mise en garde. Et notez bien que la mise en garde, ce n'est pas uniquement contre les innovations. Car les innovations ne marchent pas toutes seules et ne se propagent pas toutes seules. Il y a forcément des innovateurs qui les propagent. C'est pour ça qu'il est très important de faire la mise en garde contre l'égarement et contre l'égaré qui le propage. Et quand la réfutation est faite contre quelqu'un parmi Ahl Sunna wal Jama'a dans une erreur qu'il a commise, il est demandé de garder, d'avoir l'adab et de préserver sa dignité et de réfuter seulement l'erreur. Car l'erreur doit être réfutée dans tous les cas, qu'elle soit commise par un salafi ou par un sectaire, par un musulman ou par un kafir. Le cinquième point qu'il a cité, c'est la modération qu'ils ont dans tous les domaines de la religion et leur position du juste milieu, qui se trouve entre deux extrêmes, l'extrême de l'exagération et de l'excès, et l'extrême de la négligence et du laxisme. Le sixième point, qui est très très important, c'est pour ça que Cheikh va revenir sur ce point d'une manière très détaillée, le sixième, qui est « al-thabatu al-haq », la fermeté sur la vérité, leur fermeté sur la vérité. Donc ils restent attachés à cette voie qu'ils ont connue avec science, quoi qu'il arrive. Et non pas, ils vont changer selon les situations, selon les contextes, selon la partie qui domine, ils se mettent aux côtés de celui qui domine. Non. Ils vont rester sur la vérité et sur cette voie qu'ils ont connue avec science dans toutes circonstances. Le septième point, leur attachement et l'importance qu'ils accordent à l'union et à augmenter l'amour entre les suiveurs de la vérité. Ils accordent une attention particulière à ce que Ahl Sunna wal Jama'a reste uni. Et ça, c'est également un des fondements de la salafia. Leur attachement à l'union et leur appel à l'union des gens de la vérité, et qui est malheureusement bafoué par les sectaires. Le huitième point, qui est l'opposé de, car l'union ne peut se faire qu'en rejetant et qu'en s'éloignant de toutes les causes de la division et du désaccord. Il ne peut y avoir d'union entre les gens de la vérité qu'en s'écartant des causes de la division. Et le neuvième point, leur attachement à l'apprentissage et à propager la science. La science bénéfique et profitable, tirée du livre d'Allah et de la sunna authentique de son prophète, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et le dernier point, la science n'est pas une finalité chez Al-Sunna wal-Jama'a. La science n'est qu'un moyen. C'est pour ça qu'ils font suivre cette science par une mise en pratique, une mise en application de la science. Ensuite, Cheikh a dit « وَهَذِهِ الْمَعَالِمُ أَيُّهَا الْأَحِبَّةِ أدلتها كثيرة لمن تأمل نصوص الوحيين وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, ces caractéristiques, chers frères bien-aimés, leurs preuves et leurs arguments sont très nombreux pour celui qui médite sur les textes des deux révélations et la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. Et parmi les arguments, قال ومن الأدلة الجامعة لتلكم المعالم. Parmi les arguments qui regroupent la plupart de ces fondements. حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه parmi les arguments qui regroupent la quasi-totalité de tous ses fondements et de toutes ses caractéristiques. Ça, c'est un hadith azim qui mérite d'être étudié souvent par les gens de la sunna. Surtout quand on sait que c'est le dernier appel du prophète, alayhi salatu wassalam, et ça, c'est sa dernière exhortation à sa communauté, alayhi salatu wassalam. Hadith al-Irbad ibn Sariya. L'Irbad ibn Sariya, comme vous savez, il faisait partie des Bakka'in parmi les compagnons, ceux qui pleuraient beaucoup, qui étaient très sensibles. Radiallahu anhu. Donc l'Irbad ibn Sariya, il a assisté à ce rappel. Il a assisté à cette exhortation du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais par contre, comme vous le constatez, ce qui a été rapporté, ce n'est pas l'exhortation. Ce qui nous a été rapporté, c'est uniquement la description de cette exhortation. Une exhortation très forte, très touchante, au point où yani, ça a touché les cœurs des compagnons. Ils ont pleuré. Radiallahu anhum. Et ensuite, ils lui ont demandé de leur faire des recommandations. Et c'est ça qui va être rapporté. Car l'effet de l'ma'idha, il est temporaire. C'est pour ça que ceux qui passent leur temps à raconter des histoires et à faire que des exhortations pour les gens, vous trouvez qu'ils ont beaucoup de suiveurs. Car les gens aiment ça. C'est léger. C'est light. Et quand il écoute ce rappel, il a l'impression d'être touché, lakin l'effet ne dure pas très longtemps. Ce qui dure longtemps, c'est la science. C'est l'apprentissage de la science. Lakin, les fruits de l'apprentissage de la science, en général, on ne les constate pas rapidement. Au bout d'un certain temps, après, on commence à voir les fruits de la science. Lakin, en général, quand ils arrivent, pour celui qui demande la science sincèrement, en voulant uniquement la satisfaction d'Allah, et en voulant se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec ce qu'il aime, en général, ça sera parmi les plus grandes causes de sa fermeté sur la vérité. Min ahammi asbab al-thabati ala al-haq. Talab al-ilm. العلم النافع مع العمل لأن العلم ليس إلا وسيلة لعبادة الله عز وجل. Et dans ce hadith, l'Irbad رضي الله عنه dit, le cheikh il dit que ce hadith a été cité plusieurs fois, lakin le rappeler ici est profitable et bénéfique. Donc l'Irbad ibn Sariya رضي الله عنه dit, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il aura fait une exhortation éloquente qui a fait frémir leur cœur et leurs yeux, et ils ont pleuré. Ils ont dit, ô messager d'Allah, tu nous as exhorté d'une exhortation d'adieu. Comme si c'était, tu nous as fait un rappel, ça veut dire que cette exhortation, elle était plus forte que ce que les compagnons avaient l'habitude d'entendre du messager d'Allah. C'est pour ça, certains d'entre eux ont déduit que peut-être c'est la dernière fois qu'il va nous faire cette exhortation. Comme si c'était la dernière de ces exhortations. Et vous savez, quand quelqu'un part dans un long voyage et il fait un rappel à ses enfants ou membres de sa famille, quand c'est un long voyage, il ne sait pas est-ce qu'il reviendra ou pas, en général, les rappels qu'il va leur faire et les exhortations qu'il va leur faire seront plus fortes que ce qu'il leur fait tous les jours. Le rappel qu'il leur fait avant de manger ou là, après avoir mangé. Ou là. C'est pour ça qu'ils ont déduit que peut-être c'est une exhortation d'adieu. Effectivement, c'était la dernière exhortation que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait aux compagnons. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Ils lui ont dit, alors, fais-nous des recommandations. Il y a ni quelque chose à laquelle on peut s'accrocher après toi, si jamais Allah prend ton âme. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme comme tous les hommes, et un prophète comme tous les prophètes qui l'ont précédé. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Il leur a dit, أُوصِيكُمْ. Et là aussi, c'est très important de remarquer, mes frères, que ces recommandations que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne, ici, c'est des recommandations qui sont suffisantes pour celui qui s'accroche à ce qui est mentionné ici, pour qu'il soit préservé, bi'idnillah, de toute forme d'égarement. De toute forme d'égarement. Il leur a dit, « Ousikum bi taqwallah. » Donc, il leur a recommandé en premier, « Attachez-vous à la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Attachez-vous à la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, en lisant le hadith, je vais lire ce que Cheikh a dit par rapport à ce hadith, pour que ce soit en parallèle. Il a dit فَفِيهِ الْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَفِي إِنْفَاذِهَا تَحْقِيقٌ لِلْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Donc le premier point, il leur a recommandé la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la piété. Taqwa, quand elle est citée toute seule, elle englobe toute la piété. Faire les ordres et s'éloigner des interdits. Là, quand elle est citée avec les ordres, elle prend juste l'éloignement des interdits. C'est pour ça qu'elle est traduite par la crainte d'Allah. Là, dans son sens général, quand elle est citée toute seule, on peut la traduire par la piété, taqwa. Tout ce qui nous rapproche d'Allah. Et dans l'exécution de cette recommandation, Cheikh dit, il y a la concrétisation de l'adoration, de l'exclusivité de l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le summum de taqwa, c'est tawhid. C'est pour ça, Mujahid rahimahullah, l'élève d'Ibn Abbas, le grand imam de tafsir, حتى أن السلف قالوا إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. Si tu as le tafsir de Mujahid d'un verset, ça te suffit. Il a étudié le Coran plusieurs fois avec Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Mujahid, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la parole d'Allah? Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Certes, Allah accepte des pieux. Il a dit, il accepte de l'muwahhidin. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, qala min al-muwahhidin. Et ça indique une compréhension profonde et minutieuse. Car Allah n'accepte que de celui qui est tawhid. C'est pour ça, yani, taqwa, le summum de taqwa, c'est at-tawhid. Il n'y a pas de taqwa sans tawhid. Ensuite, il dit, وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ فِي رِوَيَةِ عَبْدٌ حَبَشِي. Il lui a dit, السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. Et je vous enjoins l'écoute et l'obéissance, même si c'est un serviteur. Dans une riwaya, même si c'est un serviteur abyssinien. Il y en a les Arabes avant, ils ne pouvaient pas accepter cela. Et donc, Nabi al-Salam est venu avec un exemple, yani, qui est le maximum de ce qu'il rejette, qu'il soit gouverné par un esclave habashi. Il leur a dit, même si c'est un esclave habashi, il faut écouter et obéir. C'est pour ça l'obéissance de Al-Sunna al-Jama'a à leur gouverneur, elle est exigée. Et c'est un des fondements de leur religion. À condition qu'il soit musulman. C'est la seule condition. Lakin, quand on choisit un gouverneur, vous allez lire dans les livres des hommes de science, plusieurs conditions. Il faut qu'il soit de Quraysh, il faut qu'il ait la science, il faut qu'il soit parmi les meilleurs d'entre nous, alim, amil, min ahli sunna. Et vous lisez beaucoup de conditions. Lakin, ces conditions, c'est quand on peut choisir. Amma, quand il arrive au pouvoir, la seule condition qui est exigée pour lui obéir, c'est qu'il soit musulman. Qu'il soit musulman. Et pour juger de son apostasie ou de sa mécréance, il faut revenir aux hommes de science. Ce n'est pas les ignorants. Il faut juste qu'il soit musulman. Et l'obéissance, c'est dans l'obéissance à Allah. Car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. Et même dans le cas où les savants ont jugé que c'est un kafir, pour le renverser, il est exigé la condition de la capacité. Car rien n'est obligatoire en islam qu'avec la capacité. وَلَا وَاجِبَ إِلَّا مَعَقْتِدَارِ. On ne va pas tuer tout le peuple pour renverser un gouverneur. Il faut que les musulmans aient la capacité de le renverser et de mettre en place un gouverneur musulman avec un minimum de dégâts. Et dans toutes ces choses-là, il y a quoi ? Ça, c'est ce qu'on est en train de voir là, c'est que l'aspect théorique. Amma, le côté pratique, c'est l'ulama qui décide de ces choses-là. C'est les affaires qui concernent l'umma. Ce n'est pas un individu ou là, quelqu'un sur Internet qui va décider de ces choses-là. Lakin, c'est bien de comprendre les règles générales. Donc, dans ce deuxième conseil, Osekum bitaqwallah. Donc, taqwallah comporte at-tawhid et comporte aussi l'exclusivité du suivi de Nabi alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que Cheikh a dit wa fi infadhiha. Yani dans l'exécution de cette recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, la concrétisation de l'exclusivité du suivi pour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Le troisième point, l'ordre de se cramponner à la tradition des califes bien guidés. Il a dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Il a dit, après la crainte d'Allah et l'écoute et l'obéissance au gouverneur, l'écoute et l'obéissance au gouverneur, as-sam'u wa ta'a, pour le gouverneur musulman, car il ne peut y avoir de groupe qu'avec l'écoute et l'obéissance. Comme a dit Omar, la jama'ata. Il n'y a pas de groupe qu'avec un gouverneur, un émir. Il ne peut y avoir de groupe qu'avec un émir, un gouverneur. Et il ne peut y avoir de gouverneur qu'avec l'écoute et l'obéissance. Et ça nous montre, d'une manière évidente, l'importance de respecter ce principe fondamental de l'écoute et de l'obéissance aux gouverneurs musulmans et de leur faire dua. S'ils s'éloignent de la vérité, s'ils ont des erreurs, de leur faire dua. Et pour ceux qui peuvent les conseiller, là, n'a pas toute personne est capable de conseiller le gouverneur, là, celui qui accède chez lui et qui peut le conseiller, il doit le faire en toute discrétion. Et non pas en public, ou là dans les discours de l'Jumu'ah, ou là dans les cours, ou là sur les forums. Hada, c'est la méthode de l'Khawarij. Al-Sunna, il conseille d'une manière générale, discrètement. Que dire du conseil pour le gouverneur ? L'écoute et l'obéissance. Ensuite, Nabi Al-Sallam a dit, et après moi, vous verrez de profondes divergences. Et année après le Nabi Islam, il va y avoir beaucoup de divergences dans la communauté, au point où ils seront divisés en 73 sectes, tout en enfer, sauf une, qui est le groupe, ceux qui resteront sur la même voie sur laquelle était le prophète, ainsi que ses nobles compagnons. Et had les 73, ni les 72 sectes, les hommes de science disent, ça c'est les grandes branches des sectes. Amma, on peut trouver par exemple, si on prend une seule secte, les soufis, on peut trouver qu'ils ont énormément de tariqa. Dans un seul pays, on peut trouver une centaine de tariqa soufis. Là, ce qui est voulu, c'est la secte mère, si on peut l'appeler comme ça. As-Soufiya, par exemple. Celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on voit beaucoup de divergences? Chacun doit avoir son propre avis. Chacun fait ses propres efforts pour arriver à la vérité. La réponse, elle vient dans les propos de Nabi Aïssa. Il a dit, « Fa'alaykum bisunnati, attachez-vous à ma tradition et à la tradition des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y avec les molaires. » Donc, en cas de divergence, le devoir de le muslim, c'est de s'accrocher à la sunna du prophète Aïssa sallam et de rester autour de l'ulama. C'est pour ça que Nabi Aïssa sallam a dit « Attachez-vous à ma sunna ainsi que la sunna des califs bien guidés. » Ici, la question qui se pose, est-ce qu'elles sont deux sunnas distinctes, la sunna du prophète Aïssa sallam et la sunna de ses califs bien guidés? La réponse, bien évidemment, non. C'est la même chose. Pourquoi Nabi Aïssa sallam il mentionne sa sunna? Ça aurait été suffisant de mentionner sa sunna. Pourquoi il mentionne directement après la sunna de ses califs bien guidés? C'est pour attirer notre attention sur un point fondamental que nous avons vu précédemment, qui est l'importance de la compréhension des compagnons. Car leur compréhension des textes, ce n'est pas comme la compréhension de ceux qui viendront après eux. Elle prévaut sur toute autre compréhension. C'est pour ça qu'en sahaba, ont un avis par rapport à une question religieuse, il n'est pas autorisé d'inventer un nouvel avis. Et quand ils divergent sur une question, on doit choisir parmi les différents avis qu'ils ont eus, ce qui nous semble le plus proche des textes, et non pas inventer un nouvel avis. Là, les choses sur lesquelles ils ne se sont pas prononcés, les choses nouvelles, ce qu'on appelle nawazil par exemple, on revient aux savants, aux héritiers du prophète alayhi salatu wassalam. Addu alayha bin nawajid. Mordez-y avec les molaires, la dernière dent. Et ça indique la force avec laquelle tu dois t'accrocher à la sunna. Celui qui s'accroche à la sunna, c'est comme quelqu'un qui tient une braise de feu dans sa main. Tellement à chaque fois, à chaque épreuve, à chaque fitna, il voit les gens tomber, hadaïva, na hadaïva. Pour rester sur cette vérité, c'est comme tenir une braise de feu dans la main, brûlante. Et c'est le seul moyen de rester sur la voie de la vérité. Nasallallahu salam al-afiyah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala le raffermissement sur la vérité et la sincérité dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Donc ça c'est ce que tu dois faire, c'est de rester attaché à la vérité que tu as connue avec preuve et argument. Et tu dois être en garde également contre le muhdathat et faites attention aux affaires innovées, car toute innovation est un égarement. Les choses nouvelles. Faites attention par rapport à tout ce qui est nouveau dans la religion, tout ce qui vient pour la première fois. Cette religion, elle est ancienne. Naam, existe dans notre religion des questions qui peuvent être traitées pour la première fois, ce qu'on appelle le nawazil. Et dans ces questions-là, on revient aux hommes de science, aux grands savants. Amma, les choses avec lesquelles se rapproche le serviteur d'une manière générale, sur lesquelles il n'y a pas de divergence, qui sont les fondements et les piliers de l'islam et de la foi, sur ces choses-là, rien ne peut être inventé. Yani les cinq salawat, le tawhid, l'ittiba' al-Nabi alayhi salam, al-bu'd an al-bid'a, salat, siyam, zakat, hadouma les grandes adorations de l'islam. Personne ne peut nous venir avec une chose nouvelle par rapport à ces choses-là. هذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون مقولات كثيرة في هذا الباب. الصحابة ils avaient beaucoup de paroles dans ce sens-là. Ils disaient اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Suivez et n'inventez point, car on vous a suffi. Et ils ont dit كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كما دي حذيفة رضي الله عنه. عبد الله بن عمر disait كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Toute innovation dans la religion est un égarement, quand bien même les gens la voient comme un bien. Regardez les gens aujourd'hui, quand ils fêtent l'anniversaire du prophète, ils estiment faire un bien, car ça leur rappelle le prophète, ça leur rappelle sa sunna, c'est ce qu'ils prétendent. Lakin, quand bien même les gens voient cet acte avec lequel ils se rapprochent d'Allah, car celui qui fête l'anniversaire, il ne fait pas une habitude, c'est un acte d'adoration. Donc, quand bien même les gens peuvent voir le bien dans ces choses-là, ce n'est jamais un bien, car il n'y a pas un bien qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas été enseigné par le Nabi alayhi sallam et qui n'a pas été pratiqué par les compagnons. Toute adoration que les compagnons n'ont pas fait, ne la fait jamais. Ça t'éloigne d'Allah. Et chaque innovation, forcément, elle va mettre fin à une sunna. À chaque fois qu'on invente une innovation, ça va tuer une sunna. Et celui qui fête l'anniversaire, il ne fera pas la sunna de ne pas fêter l'anniversaire. Car la sunna, c'est de ne pas fêter l'anniversaire. Donc celui qui fait cette bid'a, il ne pourra pas faire cette sunna. Et ça aussi, ça rend la religion comme chez les chrétiens. Yani la religion, c'est le dimanche ou la c'est. Là, c'est pas comme ça l'islam. L'islam, c'est une religion qui se vit à chaque instant. On vit avec le Nabi alayhi sallam chaque instant. Car dans toute adoration que nous faisons, nous nous rappelons notre prophète alayhi sallam. Nous devons être dans son suivi pour que ce soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une fois dans l'année où je vais me rappeler le Nabi alayhi sallam. Et c'est pour ça, ya ikhwa, إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. Quand il y a les preuves de la révélation, il n'y a plus de place à la raison. La raison, son rôle, il se limite à comprendre les textes et non pas à embellir ce que Allah n'a pas légiféré. Et dans ce hadith, également, la mise en garde contre les innovations. La mise en garde contre les innovations. Et dans ce hadith également, l'appel à la modération et à la position du juste milieu dans la religion. Et la position du juste milieu dans la religion. Entre, yani ce juste milieu, entre deux extrêmes. Une guidée entre deux égarements. Et une lumière entre deux obscurités. حقق الوسطية الشرعية. Le juste milieu, légiférer, demander dans la religion, la position médiane car chaque vérité, forcément, elle se trouve entre deux égarements. Et si vous étudiez les avis des sectes égarées dans la croyance, dans la foi, dans leur position face au gouverneur, dans tous les domaines, vous allez toujours trouver que Al-Sunnah al-Jama'a, ils sont dans un juste milieu entre deux extrêmes. L'extrême du laxisme et de la négligence, et l'autre extrême de l'exagération et de l'excès. Al-Sunnah, ils sont dans un juste milieu. Il y en a, par exemple, si on revient à ce point, Al-Anna, je sais que beaucoup de gens ont du mal, même parmi ceux qui se disent salafis, ont du mal avec les mises en garde. Si on prend ça comme exemple, il y a Al-Sunnah wal-Jama'a, vous allez trouver qu'ils sont dans un juste milieu. Il y a un extrême qui appelle à délaisser complètement les mises en garde et qu'on n'a pas, on n'est pas à l'époque où on va faire des mises en garde contre des musulmines. On a des ennemis qui sont encore plus grands. On doit d'abord régler l'affaire de l'ennemi externe avant de se pencher sur l'ennemi interne. Ça, c'est des choubouat pour embellir cette chose-là. Et ça, ça touche les gens car yani, les gens, ils sont, quand il n'y a pas l'ilm, quand il n'y a pas la connaissance de l'manhaj salafi, yani, ils trouvent que c'est bien. Et pourquoi ces mises en garde ou là ? C'est des muslimines, inshallah, ils veulent le bien. Ils veulent le bien, ça c'est leur affaire entre eux et leur créateur. Lakin, comment cette religion doit rester préservée s'il n'y a pas de mise en garde contre toute chose erronée, attribuée à la religion du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc vous allez trouver un extrême de laxisme qui appelle à délaisser complètement les mises en garde et que ce n'est pas le moment pour les mises en garde. Jusqu'à, et si on les écoute et on les suit, on va délaisser bien évidemment la méthodologie de Salaf et on va se retrouver un jour ou un autre avec une religion comme les chrétiens. Ils dansent et ils boivent le sang de Jésus, ils mangent sa chair. C'est ça qui va rester de la religion. Et de l'autre côté, vous avez un autre extrême qui... ceux qui font des mises en garde sans preuve, sans argument, et qui attribuent aux gens des choses qu'ils n'ont jamais dit. Ça, c'est l'exagération dans les mises en garde. Al-Sunnah, ils sont dans le juste milieu. Naam, la mise en garde est demandée. Il y a une différence entre réfuter un salafi et réfuter un innovateur. Et quand on réfute, il faut qu'on... Yani, on réfute avec des preuves et des arguments. Là, ce n'est pas obligatoire de citer toujours les preuves et les arguments quand on réfute un innovateur. Et même dans la réfutation d'un innovateur, il y a les preuves et les arguments. Là, ce n'est pas obligatoire de les citer. Contrairement à quand tu réfutes un salafi, tu dois citer les preuves et les arguments obligatoirement dans tous les cas. Car salafi, la règle de base, c'est qu'il est digne de confiance et intègre. Ce qui n'est pas le cas de l'Mubtadi. Lakin, dans les deux cas, il y a les preuves et les arguments. La mise en garde contre les innovations, le juste milieu, et il y a aussi dans ce hadith, la mise en garde contre la division et la désunion et le désaccord et les divergences qui ne sont pas autorisées. Car on ne peut être uni qu'en s'éloignant de toutes les causes de la désunion. On ne peut avoir d'amour entre nous et le maintenir et le préserver et l'augmenter qu'en s'éloignant de toutes les causes de la haine entre les gens de la vérité. Et Shaitan, il est bien évidemment attaché à les pousser dans l'autre sens. Les causes de la division. C'est pour ça, Yanni, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais penché, et je l'ai entendu de certains de mes chouyours. Mais personnellement, comme expérience, petite expérience, avec des gens, des centres, là, des salafiyines, dans la da'wa, je ne me suis jamais penché sur des problèmes entre des salafiyins en trouvant des vrais problèmes religieux qui les divisent. Toujours ce qu'on appelle « hadhul nafs ». Il y a des problèmes personnels à qui on va faire porter l'habit de la divergence méthodologique ou hadi. Là, qui en réalité, quand tu regardes, tu ne vois rien. Pourquoi vous êtes divisé? Hada, il ne peut pas supporter Hada, Hada, il ne peut pas tolérer Hada, Hada, il n'aime pas Hada. Yahri, il ne t'est pas demandé d'aimer tout le monde. Ou là, d'avoir des affinités avec tout le monde. Là, quand il est question de la da'wa, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces points deviennent secondaires. Ces points deviennent secondaires. Les affinités, c'est quand tu vas inviter ton ami pour manger un sandwich ou la hadi. Tu choisis qui tu veux. Lakin pour la da'wa, si on peut être avec des gens avec lesquels on a des affinités, alhamdoulilah. Lakin, c'est pas toujours ça qui est possible et proposé. C'est pour ça qu'on doit collaborer et travailler ensemble pour l'intérêt de la da'wa. Même si au niveau de la personnalité, on ne s'entend pas, ou là je ne tolère pas certaines choses que tu as, ou là toi non plus, tu n'aimes pas certains points chez moi. Mais on doit collaborer et s'entraider pour le bien de la da'wa. Ça, c'est un objectif supérieur à tout ce qui peut nous éloigner l'un de l'autre dans les questions de dunya. Donc ça, c'est le dernier point qui a été cité par Cheikh ici. Ensuite, il a dit « وَهَذَا التَّوْجِيهُ النَّبَوِيُّ يَتَضَمَّنُ نَصًّا وَاسْتِبَاطًا » Et il termine par ce point, il dit « Ces recommandations prophétiques comportent d'une manière textuelle et يعني comporte الامر بالاجتماع والائتلاف بالحق وعلى الحق وللحق. Donc le Nabi عليه الصلاة والسلام l'a stipulé. Il a dit فعليكم بسنتي. Attachez-vous à ma sunna. Et il y a en cela un ordre de sa part عليه الصلاة والسلام. Vous savez que عليكم c'est parmi les expressions qui donnent l'ordre. اسم فعل. اسم فعل. Donc c'est un ordre que le Nabi nous donne ici. Il nous dit, attachez-vous à ma tradition et la tradition de mes califes bien guidés après moi. Donc il y a en cela un appel et un ordre à être unis, soudés, autour de la vérité, sur la vérité et avec la vérité et pour Allah subhanahu wa ta'ala. ومن المعلوم البين أنه لا يمكن تطبيق هذه المعاني وظهور هذه السمات إلا بالعلم الشرعي النافع. Et il coule de source que il n'est pas possible d'appliquer tous ces points qui ont été mentionnés dans ce hadith et mettre en évidence toutes ces caractéristiques qu'avec la science légiférée profitable. Allahu Akbar. La clé de tout bien dans la religion de l'islam, la clé de tout bien dans la religion de l'islam, c'est l'ilm al-nafi'. L'ilm al-nafi', comme vous savez, c'est la science prise du livre d'Allah et de la sunna authentique de son prophète, alayhi sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc il n'est pas possible de mettre en évidence ces caractéristiques et de les suivre. Comment tu vas faire pratiquer le tawhid si tu n'apprends pas ce que c'est tawhid et ce qui s'oppose au tawhid, qui est shirk? Comment tu vas être dans le suivi de Nabi alayhi salam si tu ignores sa sunna? Comment tu vas être en garde contre les innovations si tu ne connais pas ce que c'est les innovations? C'est pour ça que pas toute personne qui pratique une innovation est un innovateur. Mais on dit sahib bid'ah, quelqu'un qui fait une bid'ah. L'innovateur, c'est celui qui sait que le Nabi alayhi sallam n'a pas enseigné ça. Lakin al-jahil, on ne dit pas qu'il est mubtadi', on dit qu'il est sahib bid'a, yani il pratique cette bid'a. Et comment être dans le juste milieu si tu te fies seulement à ta raison, ou là à ta compréhension? Il y a certains qui voient que le juste milieu, c'est de s'asseoir avec des gens qui font des péchés, afin de les appeler à la religion. Et ça, je l'ai entendu de personnes ayant un certain niveau de science quand même. Qu'il n'y a pas de mal à s'asseoir avec des gens qui boivent de l'alcool pour pouvoir se rapprocher davantage d'eux et les appeler à l'islam. Et j'ai entendu d'un autre da'i qui disait qu'il n'y a pas de mal à serrer la main à une femme étrangère. Tous ces gens-là reconnaissent que ces choses-là sont interdites à la base. C'est ça la différence entre eux et un jahil. Ils savent que c'est haram. Ils te disent « Na'am, c'est haram ». Al-Nabi al-Sallam n'a jamais serré la main à une femme, même pendant le pacte d'allégeance de l'Aqaba ou la Sulh-Hudaybiyah, il n'a jamais serré la main à une femme, alayhi salatu wassalam. Tu dis c'est haram, lakin pour l'intérêt de Da'wah. Donc comment savoir que tu es dans le juste milieu et dans la modération qui est demandée et dans la position médiane qui est voulue dans cette religion sans science? C'est pas possible. Et ensuite, il a cité la parole de Ibn Taymiyyah avec laquelle nous allons terminer, inshallah ta'ala, dans laquelle il dit « Al-khayru, wa-sa'adatu, wa-salahu, wa-l-kamalu, munhasirun fi naw'ayni, fi l'ilmi nafi'i, wa-l-amali s-salih. » Donc, Cheikh l'Islam Taymiyyah dit « Le bien et le bonheur et la réforme et la perfection sont limités en deux choses seulement. » Se trouve uniquement dans deux choses, dans la science bénéfique et dans les œuvres vertueuses et pieuses. Dans l'ilm al-nafi' et l'amal salih. L'amal salih, c'est l'amal dans lequel il y a la sincérité et le suivi. L'amal salih, c'est l'amal alladhi fihi ikhlasun wa mutaba'atun lil nabi sallallahu alayhi wa sallam. نقول قد انتهينا من هذا الحمد لله on a terminé cette partie. Dans ce qui va suivre, Cheikh va citer quelques arguments avant d'arriver à la conclusion bi'idhnillah ta'ala, ce que nous allons voir dans notre prochaine rencontre bi'idhnillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.